C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et aujourd'hui, je vous parle de Seven Wonders Duel, qui est d'ailleurs pour moi le meilleur jeu de joueurs qui existe sur le marché. Alors, je ne vais pas vous le représenter, car on l'a déjà fait dans C'est Ludique, mais je vais vous parler de la dernière extension sortie. La deuxième, il s'agit d'Agora. Alors dans Seven Wonders Duel, le jeu d'Antoine Boza et Bruno Catala, édité par Repos Productions, vous pouvez gagner de trois manières. Grâce à la suprématie militaire, grâce à la suprématie scientifique, et dans ce cas la partie s'arrête sur le champ, mais vous pouvez aussi gagner hein, si vous avez le plus de points à la fin du troisième âge, ce qui se produit hein, le plus souvent. Mais désormais, vous pourrez remporter la partie grâce à la suprématie politique. Agora va ajouter le Sénat, et si vous êtes majoritaire dans les 6 chambres du Sénat, vous remportez immédiatement la partie. Dans Agora, vous ajoutez le plateau Sénat qui s'imbrique parfaitement au-dessous de la piste militaire, et dans les différents âges, hein, les 3 paquets de cartes, on va rajouter les cartes sénateurs. Ces cartes sénateurs sont des politiciens ou des comploteurs. Alors les politiciens vont vous permettre de placer les cubes d'influence dans les différentes chambres du Sénat. Lorsque vous avez une majorité dans la chambre, eh bien vous bénéficiez en plus d'un décret qui vous offre un avantage. Ça peut être de payer des cartes moins chères, mais aussi de gagner des symboles ou de récupérer des pièces. Chaque joueur a ses cubes qui seront à placer dans la chambre centrale, à droite et à gauche, qui elles sont aussi divisées en deux. Alors si vous prenez une carte politicien avec l'emplacement central, vous êtes obligé de le placer dans une des chambres du centre. Il sera possible avec des actions hein, de déplacer le cube d'influence. Passons maintenant aux comploteurs, qui eux rajoutent de l'interaction dans le jeu. Car avant, le seul souci c'était de prendre la carte que l'autre joueur voulait dans la pyramide des âges. Là, ça se complique et on risque de se faire, quand même quelques couvaches. Les comploteurs vont vous permettre de préparer des complots. Lorsque vous prenez une carte comploteur, vous allez soit déplacer un cube d'influence pour prendre une majorité, par exemple dans l'une des chambres du Sénat, mais vous avez le choix aussi entre tirer 2 cartes complot et en garder une. Et mettre votre comploteur en dessous, c'est-à-dire vous êtes en train de préparer votre complot. Ensuite, lors d'un prochain tour, vous allez pouvoir jouer votre complot en prenant une carte de l'âge pour le valider, un peu comme on fait pour les merveilles. Les complots sont des cartes qui clairement attaquent l'autre. En gros, je peux te voler une carte ou te la détruire. J'avais besoin de verre, désolé, je te le pique. Pas sympa, mais c'est comme ça. Pire, on peut s'attaquer aux merveilles de l'autre, croyez-moi. Si vous trouviez qu'il manquait de l'interaction dans duel, là, vous allez être servi. Alors autant j'ai déjà gagné avec la suprématie militaire, autant je n'ai jamais réussi avec celle scientifique. Croyez-moi, je compte bien gagner avec la suprématie politique et ça c'est joué à un sénateur. Allez, dernière chose, 2 nouvelles merveilles sont dans la boîte. Il s'agit de Knossos et Curia Julia. Je vous propose d'ailleurs de retrouver Bruno Catala, l'un des 2 auteurs d'Agora, qui nous parle donc de cette 4e façon de gagner avec le Sénat et de son association avec Panthéon, la première extension.
Alors le Sénat, effectivement, il va offrir une 4e voie de victoire. C'est-à-dire que le Sénat, il est divisé en 6 chambres. Dans ces chambres, on va pouvoir mettre des sénateurs à sa couleur. Et si on est majoritaire dans les 6 chambres à n'importe quel moment de la partie, c'est une victoire politique immédiate. Alors c'est pas quelque chose qui va arriver souvent, mais ça peut arriver de la même façon qu'on peut avoir une victoire militaire ou une victoire scientifique. Donc on a un nouveau type de cartes, ce sont les sénateurs, mais certains d'entre eux sont des comploteurs. Et donc on peut les utiliser soit comme des sénateurs de base, soit comme des comploteurs. Et donc les comploteurs vont permettre d'ourdir de sombres complots qui vont permettre de bouleverser la partie à des moments opportuns. Donc des petits coups de Trafalgar, des petits coups de sournois comme j'aime bien en fait.
Et on pourra jouer avec les deux, Panthéon et Agora en même temps ?
Alors, on peut tout à fait les combiner. Après, il faut vraiment avoir envie de brûler du neurone. Mais effectivement, les 2 extensions ont été développées totalement séparément. Mais avant la publication, on s'est assuré que les 2 étaient totalement compatibles. Voire même, je vais même te dire, j'ai même été surpris parce que moi, j'avais pas forcément très envie de jouer avec les 2 à la fois.
Ouais.
Et puis en fait, on a fait quelques parties, et à ma grande surprise, c'était beaucoup moins lourd que ce que je le craignais.
D'accord.
Mais on peut tout à fait jouer à Agora sans posséder Panthéon. Ouais. C'est pas du tout un problème. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Bruno.
De rien.
C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, c'est l'heure de jouer aujourd'hui avec Vianney du magasin Terre de Jeux à Rennes. Bonjour Vianney.
Salut Mathieu, salut à toutes et tous.
Ça va bien ?
Bah écoute, ça va mieux, j'ai une voix qui marche, t'as vu?
Mais oui, je vois ça, mais tu me l'as refilé ou quoi? C'est pas possible.
Oui, j'envoie ça par les ondes radio, attention.
Bah j'ai l'impression. Parce que, alors toi et Morgane, vous aviez une voix catastrophique la semaine dernière, avec Vichy, hein, voilà. Et puis vous avez dû me refiler ça par les ondes radio.
On appelle ça le syndrome de Vichy.
Ah d'accord, ok. Alors aujourd'hui on va parler, ça tombe bien, j'ai pas besoin de beaucoup parler aujourd'hui puisque je ne connais pas le jeu que tu vas parler qui s'appelle Vol de Nuit.
Ouais, Vol de Nuit, du coup c'est un jeu à 8 mains, 4 cerveaux, 42 de pied.
D'accord.
Louis Arnaud Viard, Nicolas Mineur, Paul Regem et Ronan Legendre, merci la petite fiche, qui sont 4 auteurs sur ce jeu. Et à l'illustration, c'est Maud Chalmel qui s'occupe de ça.
D'accord.
Maud Chalmel, donc moi, je suis un grand fan, donc je ne suis pas objectif sur le jeu puisque je trouve qu'il est trop beau du coup.
Ouais.
C'est un jeu coopératif plutôt dédié à un public de gens qui ont un peu l'habitude des jeux de société parce qu'on n'est pas sur un jeu, je dirais, d'entrée pour découvrir les jeux de société modernes aujourd'hui.
D'accord.
Mais on n'est pas non plus sur un jeu trop complexe. C'est un jeu qui va durer entre une demi-heure et une heure de partie.
Ouais.
Ça joue entre 2 et 5 joueurs. Sachant que pour ma part, à 2 joueurs, je le trouve beaucoup moins intéressant qu'à plus.
D'accord.
Même jouable et c'est pas mauvais. L'idée en gros de Vol de Nuit, ça se passe dans un cadre qui est celui du bouquin de Saint-Exupéry.
D'accord.
Alors je ne le connais pas, mais il s'appelle Vol de Nuit. Ma culture de Saint-Exupéry s'arrête au Petit Prince.
Bah, moi aussi.
voilà. Mais c'est dans ce contexte-là, même si le jeu est en fait pas forcément ultra thématisé sur le bouquin, j'ai l'impression. Le contexte, c'est plus qu'on joue un espèce d'avion qui avance de nuit, hein, qui vole de nuit, et qui est vraiment en galère, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à traverser des tempêtes, des orages, et ça va être compliqué, il va falloir le faire partir d'un bout du plateau d'un point A pour le faire arriver à l'autre bout.
D'accord.
Et ça va se faire en coopération. On va en fait, chacun à notre tour, pouvoir lui permettre un déplacement. La petite subtilité du jeu, c'est que ce déplacement se crée en programmation. C'est-à-dire qu'en début de manche, en gros, les joueurs vont tous ajouter une carte dans la file de programmation des déplacements. Donc du coup, il y a un petit côté incertain sur ce qui va se passer, puisque chaque carte est ajoutée face cachée.
D'accord.
Donc tu sais que ton partenaire a joué une carte, par exemple, en deuxième position de la programmation.
Ouais.
Il va avoir le droit de te donner un petit indice. Genre, c'est un truc qui va plutôt vers l'avant. C'est un truc qui va plutôt vers le côté.
D'accord.
Un truc comme ça, genre ça va plutôt à l'est ou plutôt à l'ouest, voilà. Sachant qu'à partir de là, toi t'es toujours en mode, ok d'accord, ça va plutôt à l'est, mais combien de cases? Une case, deux cases, trois cases.
Ouais.
Parce que à deux cases, il y a un ouragan, à une case, ça va. Donc toi tu vas essayer de rétablir peut-être et de dire allez je vais aller de l'autre côté, mais toujours au feeling de se dire bon bah mince, si jamais ça foire quoi. C'est assez rigolo, il y a vraiment le côté programmation en coopération, ce qui est assez rare au final. La plupart des jeux de programmation sont souvent en compète. Et l'exercice marche super bien en fait. Et les petites astuces de communication qu'ils ont mis dans le jeu sont très malines. En gros, quand tu vas jouer une carte, tu as le droit de donner, je disais, une information. Ça va être une information soit sur le type d'action, donc est-ce que c'est plutôt pour avancer, reculer ou aller sur les côtés.
D'accord.
Gros, hein. Ou alors le cap que tu suis. Donc ouest ou est, grosso modo. Hein. Et l'idée, c'est que tu vas être dans un délire de j'ai le choix entre donner soit le cap, soit l'information de déplacement. Et du coup, ça va être là-dessus que tout le jeu va se jouer. Qu'est-ce que tu penses qu'il vaut mieux donner comme information à tes partenaires de jeu? Plutôt le sens dans lequel tu vas ou plutôt le type d'action que tu as choisi?
Ah oui, d'accord.
C'est assez passionnant à jouer du coup. Il y a vraiment un petit délire au départ, les premières parties, quand tu joues avec un premier groupe de joueurs, on essaye de se comprendre sur les codes de communication qu'on crée. Donc ça rappelle beaucoup des jeux comme La Marche du Crabe ou Magic Maze. Ou
ouais.
Des jeux qui, comme il y a une communication restreinte, vont t'obliger à essayer de décrypter comment jouent tes partenaires de jeu pour mieux comprendre et mieux jouer. Et l'exercice est assez bien foutu. Le jeu est très varié. Il y a des petites cartes spéciales, des petits événements qui vont venir foutre le bordel, t'obliger à réfléchir différemment. Le jeu est vraiment intelligent. C'est un jeu qui t'est pas mal passé sous les radars et je trouve ça cool du coup de pouvoir
en parler de moi. Parce il est sorti quand ce jeu du coup? Parce que moi je l'ai pas vu.
Il est sorti, je dirais, cet été.
Ah oui.
Si je dis pas, tu vois.
Donc c'est assez récent, ouais.
Ouais, c'est assez récent. Je dirais que c'est sorti cet été, si je me trompe pas. En tout cas, c'est sorti dans les 4 derniers mois, quoi.
D'accord.
Et l'idée, c'est que t'as vraiment cette sensation d'avoir un jeu coopératif pour gens qui apprécient les jeux de société. Donc, on est sur un niveau à la pandémique un peu plus technique, voire un niveau pandémique.
D'accord.
Donc, avec ce petit côté, je vais quand même réfléchir, je vais avoir des vrais dilemmes de choix. Et en même temps, c'est un jeu où tu peux vraiment te marrer. Parce que le côté programmation va amener des situations où des fois, c'est la catastrophe. Tu passes du stade de « on allait bien, tout allait bien » à un tour où tu vas faire « oh mon Dieu, on a perdu je sais pas combien de points de communication, machin, etc. » C'est vraiment excellent. Donc voilà, ça me faisait plaisir de mettre en avant ce petit jeu-là qui n'est pas forcément le jeu le plus connu de l'été.
Ouais, non mais puis ça tombe bien puisque tu as choisi le bon jour pour en parler, comme je ne pouvais pas dire grand-chose puisque je ne connaissais pas le jeu et comme ma voix, je ne sais pas si elle va tenir jusqu'à 10 heures, donc c'était parfait. Vianney, j'ai posé une question l'autre fois à Morgane, à quoi elle jouait en ce moment ? Je vais te dire toi plutôt, parce que tu as une boutique de jeux, qu'est-ce qui se vend bien en ce moment ?
En ce moment, toujours pas. Bah, en fait, c'est compliqué d'avoir un regard. Faudrait que j'aurais dû regarder avant, mais en gros, il y a toujours les mêmes. Il y a les best-sellers.
Ouais.
Donc, les best-sellers, j'imagine que les gens qui sont intéressés par le jeu de société les connaissent déjà. Ça va être Codenames, Les Aventuriers du Rail, Seven Wonders Duel.
Ouais.
Les très grosses références de jeux de société qui s'écoulent par kilo de mille. Et après, dans les trucs un petit peu plus étonnants, par chez nous, on a deux références plutôt récentes qui sont Happy City et Top Ten.
Ouais.
Sont deux très bonnes ventes chez nous parce que nous on a beaucoup aimé et qu'on défend
puis,
avec les ongles.
Il me semble que t'en as pris beaucoup d'Happy City. Hein.
Ouais, bah, nous on y croit beaucoup et on a raison puisque a priori on a une grosse partie des gens auxquels on a conseillé qui sont revenus nous dire que c'était très chouette et qu'ils avaient bien aimé.
Ouais.
Donc c'est cool, il y a aussi des gens déçus, forcément c'est toujours pareil, hein. Un jeu ça peut pas faire l'unanimité, c'est ça qui est chouette, ça reste une œuvre culturelle et
ouais.
Donc bah, comme un film, comme un bouquin, tu peux trouver ça génial et le partager à plein de gens, puis il y a toujours au moins une personne pour dire ah non, bah, moi ça j'ai moins aimé ou j'ai pas aimé du tout, mais nous c'est des jeux qu'on aime beaucoup et c'est vrai que on a trouvé que c'était des jeux qui faisaient l'unanimité ou en tout cas qui s'adressaient à un public très très large.
Ouais.
Top 10 dans un style totalement différent qu'un jeu d'ambiance fait pour se fendre la gueule. Dans ce genre-là, moi, depuis Time's Up, je pense, j'avais pas joué à un jeu qui me faisait autant marrer.
Entièrement d'accord.
J'ai l'impression que c'est, j'ai l'impression que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens, quoi. C'est assez flagrant et le jeu a peu de chances de foirer. Il y a des moments où les gens vont, ça va pas marcher, comme d'hab. Il y a jamais d'unanimité, donc c'est ça qui est bien. Mais la chance que ça marche est ultra élevée, quoi. Comme Codenames, comme. Donc c'est vraiment, c'était des jeux qui nous ont beaucoup emballés. Puis un jeu pour rigoler comme Top 10, il y en a pas 50 par an, donc c'est cool. Ouais.
Il y a un jeu que t'attends en particulier, là ?
Ah, de ouf.
Ah.
Moi, le jeu que j'attends le plus, parce que je me suis fait lâchement teaser avec 2-3 phrases, c'est en anglais Initiative, en français Le Projet. Donc, c'est un jeu de Corey Konieska qui va être édité par la maison d'édition qu'il a monté tout seul, puisque c'est l'ancien chef de projet développeur de chez Fantasy Flight Games, notamment auteur de Battlestar Galactica, qui est un monument du jeu de
Ouais.
Et ça, le projet, ça va être un jeu assez étonnant, chelou. Alors, j'ai pas joué, mais de comment ça marche, l'idée, c'est que c'est du jeu coopératif, un peu en campagne narrative, donc dans l'esprit des jeux à mouvance Legacy.
D'accord.
Si ça n'est pas un Legacy. Et l'idée, c'est qu'il va y avoir donc une campagne de 15 parties, et il y a tout un délire qui, moi, me fait beaucoup trop triper sur le fait que ce soit une mise en abîme. C'est-à-dire que tu vas jouer à un jeu de société qui s'appelle Le Projet.
Ouais.
Et dans ce jeu de société, tu incarnes des jeunes enfants qui vont jouer à un autre jeu de société. Et c'est à ce
D'accord.
jeu que tu joues.
Ouais.
Et il y a tout un délire de mise en abîme que je trouve assez délirant. Connaissant Corey Konieska, je pense qu'il peut aller très loin sur le côté narratif un peu étonnant. Il a l'habitude de créer des choses chouettes et de, en général, de bien cadrer ses jeux. C'est aussi l'auteur du jeu Star Wars Rebellion. Pareil, extraordinaire dans le genre. Donc c'est vraiment un mec que j'attends au tournant sur ce genre d'exercice parce que les jeux à mouvance Legacy c'est très à la mode et pour l'instant à ma connaissance le seul qui réussit vraiment à créer quelque chose de très narratif et poussé dans ce genre là ça reste Rob Davio et Matt Leacock avec Pandemic Legacy.
Ouais.
Donc c'est con et d'ailleurs Risk Legacy aussi de Rob Davio et Betrayal Legacy, mais c'est j'aimerais bien voir quelqu'un d'autre réussir ça avec une autre patte et je pense que Corey Konieska il est plutôt doué là-dessus, donc je vraiment ça c'est le truc qui me chauffe le plus. C'était censé sortir en août, en fait c'est censé sortir en octobre et maintenant c'est censé sortir en janvier.
D'accord, ok.
Mais je prends mon mal en patience.
Comme tous les jeux quoi, qui sont retardés.
Ouais, non, je suis abonné aux jeux moi qui sont repoussés. C'est toujours le même. Moi, c'est, moi, si un jeu il est repoussé beaucoup, c'est un jeu que j'ai envie de jouer.
D'accord.
C'est ça.
Dernière chose, Vianney, comment ça s'est passé dans le lit de Simon du Passe-Temps?
Ah, c'était super, mais attends, je vais pas en dire plus. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti.
Mais non
donc,
ça sort quand, ça, alors?
Faudra regarder. Non, c'était magnifique. Mais ce que les gens ne sauront pas, c'est qu'il y a des moments où on était plus que deux dans ce lit.
Ah ah. Et on sait quand est-ce que la vidéo va sortir?
Non, pas du tout. Je pense dans les 15 proches. Enfin, il a annoncé que ça devrait arriver. Après, moi, je sais pas du tout. Faudrait poser la question à Simon.
Oui. Eh ben, on lui posera la question.
Ça marche.
Merci, Vianney. À la semaine prochaine.
Ouais, salut, passez une belle journée. Salut.